Il est 6h, très bon réveil avec Europe 1.
J'entends également certains appeler à un confinement dur et immédiat, 4 semaines, et puis on est débarrassé. Malheureusement, notamment en raison de la propagation des variants, c'est loin d'être aussi simple.
Les mots du Premier ministre hier soir à propos des reconfinements forts et locaux. Pourtant, c'est ce que proposent plusieurs élus en France pour endiguer l'épidémie. À la mairie de Paris, on envisage un confinement de 3 semaines. Dans ce journal, l'espoir des restaurateurs de pouvoir enfin réclamer des indemnités aux assurances à cause de la crise. À Marseille, un gérant vient d'obtenir gain de cause. Dernière ligne droite pour la Convention citoyenne sur le climat. Ce week-end, ses 150 membres vont se pencher sur les réponses du gouvernement à leurs propositions. Et puis la justice a tranché à Lunas, dans l'Hérault. Les 7 éoliennes érigées sur un site naturel vont être démontées.
À suivre la page des sports et puis mon invité inattendu sur cette convention citoyenne pour le climat qui touche à sa fin. C'est un artiste, un designer, un architecte mondialement connu qui est avec nous ce matin pour défendre son engagement personnel écologiste. Bienvenue à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Pas de reconfinement immédiat, mais des zones placées sous surveillance renforcée face à la progression du virus. 20 départements sont concernés, principalement dans l'Est, les Hauts-de-France et la région parisienne. Jean Castex se donne encore quelques jours avant de trancher, le temps de concerter localement. C'est la nouvelle stratégie de l'exécutif.
Et Paris fait partie de ces zones en sursis. La mairie écarte un confinement le week-end et propose au gouvernement une mesure bien plus stricte. Un reconfinement total de 3 semaines. Nicolas Feldman.
Un reconfinement strict et pas seulement le week-end. L'idée frappait vite et fort. 3 semaines de confinement pour au bout tout rouvrir, bar et restaurant compris. On ne peut pas s'imposer de vivre dans une semi-prison pendant des mois, estime le premier adjoint à la mairie de Paris. Pour Emmanuel Grégoire, il faut maintenant prendre des décisions courageuses. Alors l'option doit être présentée à l'ARS, puis évoquée lundi avec la préfecture de police. Du côté de la région Île-de-France, si l'objectif aujourd'hui reste d'éviter un reconfinement total, l'approche doit être régionalisée. Une approche par ville ou par département est illusoire, nous dit-on dans l'entourage de Valérie Pécresse. Un raisonnement appuyé par ce chiffre. Chaque jour, on compte au moins 3,2 millions de déplacements entre Paris et sa petite couronne.
Nicolas Feldman. Par ailleurs, Mayotte va encore rester confinée pendant au moins 2 semaines supplémentaires. Une décision du préfet hier soir face à la flambée de l'épidémie dans le département.
La crise sanitaire bouleverse nos habitudes, on le sait, y compris quand il s'agit de passer à la caisse.
Oui, selon une récente étude du groupement des cartes bancaires, moins de la moitié des Français, 48%, utilisent désormais différemment leurs moyens de paiement. Et la carte bleue, elle vend en poupe, Élise Dangean.
Oui, clairement, la carte bancaire a été largement plébiscitée l'an dernier, et notamment le sans-contact. Cette pratique, associée à un geste barrière, s'est considérablement développée, aussi grâce à l'augmentation du plafond de 30 à 50 euros. Résultat, 4,6 milliards de paiements ont été faits ainsi, c'est du jamais vu, et c'était une première pour 20% des porteurs de carte bleue. Autre évolution l'an dernier, moins de transactions mais des montants plus élevés. Loïs Moulin est le directeur du développement du groupement des cartes bancaires.
Les clients ont moins fréquenté les magasins mais ils ont fait des paniers plus importants. Et donc on a une hausse inhabituelle du panier moyen par carte bancaire sur le mois d'avril 2020, plus 7 euros, ce qui est extrêmement important. Et en moyenne, sur l'année, on a une progression de ce montant moyen de 1 euro, alors que depuis 6 ans, ce montant moyen baissait.
Les Français ont aussi beaucoup utilisé leurs cartes sur Internet. La croissance du e-commerce s'élève ainsi à près de 10%, portée notamment par la grande distribution alimentaire, avec un recours massif au drive.
Élise Dangean du service économie d'Europe 1.
C'est une lueur d'espoir pour les restaurateurs. Hier, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné AXA à indemniser un restaurateur marseillais pour ses pertes liées au Covid.
Mais plusieurs actions en justice de ce type sont en cours un peu partout en France, mais c'est la première fois qu'une cour d'appel tranche le dossier sur le fond. La clause épidémie présente dans certains contrats est bien valable pour les pertes dues à la pandémie. Jean-Michel Alazard est restaurateur dans les Alpilles et lui aussi poursuit AXA en justice. Son audience aura lieu le 18 mars.
Le but de la manœuvre, c'était que ça fasse boule de neige et que tout le monde puisse se sauver. Et donc, on enfonce le clou et puis les tribunaux ou la cour d'appel nous suivent. Le mouvement est lancé et je suis content pour moi et pour tous mes confrères. L'indemnisation, elle va compenser le manque qu'on a tous les jours, qui continue et tous les jours on est fermé, on perd tous les jours de l'argent. Alors il y a des aides mises en place, mais ça suffit pas à tout payer. On paye nos prêts, on paye nos salaires en tant que dirigeant pour quand même nourrir nos enfants. ces indemnisations nous permettent de survivre, parce que sinon on serait tous dans le rouge. On est dans un stress au quotidien, on se ronge l'estomac à pas savoir quand est-ce qu'on va avoir la chance de pouvoir réouvrir. C'est le seul espoir qu'on a, c'est d'arriver à gagner contre AXA qui nous ment, AXA qui veut pas nous payer, AXA qui veut pas assumer son rôle qui est, il me semble, assureur, tout simplement.
Témoignage recueilli par Clément Le Saffre.
Depuis hier, vous pouvez vous faire vacciner chez votre médecin généraliste, en tout cas si vous faites partie de cette catégorie visée par la deuxième phase de cette campagne de vaccination. Les 2 millions de Français âgés de 50 à 64 ans souffrant de comorbidité.
Et les généralistes utilisent pour l'instant le vaccin d'AstraZeneca. Ils aimeraient pouvoir aller plus vite, mais sont trop limités en dose. Autre obstacle auquel ils doivent faire face, les patients pour qui la vaccination ne fait pas encore l'unanimité. Jean-Luc Boujon.
Hier, la scène s'est répétée 10 fois dans le cabinet du docteur Florence Lapica, les 10 premières injections du vaccin AstraZeneca.
Ça va ?
Oui.
Ouais ?
Pas de problème.
Pas de problème ? C'est supportable ?
Oui, ça va.
Allez, c'est tout bon.
Et pour Jean-Luc, 54 ans, même pas mal.
Ça va, impeccable. J'ai attendu 15 minutes dans le bureau, c'est impeccable, pas de problème.
Jean-Luc qui sait que le vaccin AstraZeneca est moins efficace que le Pfizer, mais pour lui, dès lors que son médecin lui a proposé, il n'a pas hésité.
J'ai un problème de cœur, j'ai de l'as, tout ça, alors c'est pour ça que mon médecin m'a appelé. J'ai dit oui tout de suite, j'ai même pas cherché à comprendre, j'ai dit oui tout de suite. Il m'a dit, je te force pas du tout, moi je préfère être en vie, qu'être sur un lit d'hôpital et tout ça.
D'autres ont été plus réticents. Le docteur Lapica a donc dû les convaincre avec pédagogie.
Je crois que les patients ont besoin d'informations et d'informations claires. Effectivement, il faut le dire aux patients, ça ne protège pas à 100%. Et il y a des petits risques quand même d'avoir des courbatures de la fièvre. Donc c'est pareil, il faut prévenir les patients.
Le docteur Lapica qui déplorait de n'avoir eu que 10 doses pour cette semaine. Pour des questions d'approvisionnement, les prochaines n'arriveront que dans 8 jours. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Il est 6h07 sur Europe. C'est l'heure du bilan pour les membres de la Convention citoyenne sur le climat.
Ils se réunissent à partir de ce matin pour une ultime session. Après avoir travaillé durant 9 mois, les 150 citoyens tirés au sort ont remis 149 propositions au président de la République fin juin. Et ce week-end, ils se prononcent sur la traduction par le gouvernement de leurs propositions. L'exécutif se targue d'en traduire la quasi-totalité quand les écologistes pointent des mesures revues à la baisse. Claudia Bertram.
Rénovation thermique des bâtiments, aviation, automobile, publicité, la copie du gouvernement est critiquée pour son manque d'ambition. L'une des principales mesures portées par la Convention, l'obligation de la rénovation énergétique des bâtiments d'ici 2040. Mais le gouvernement ne retient pas l'obligation généralisée et opte pour l'interdiction de la location des passoires thermiques d'ici 2028. Autre point noir, l'interdiction de la publicité pour les produits les plus polluants, comme les SUV, se limite finalement aux seules énergies fossiles. Ou encore l'interdiction de certains vols intérieurs conditionnés par le gouvernement à une alternative de moins de 2h30 en train, quand la convention proposait 4h. Et les exemples peuvent se multiplier. Grégoire Fratil, un des membres de la convention, veut voir le verre à moitié plein, mais ne cache pas sa déception.
On va dans le bon sens. Après, parce qu'on va suffisamment vite, suffisamment loin, c'est les questions d'ambition. Alors oui, nous, aux citoyens, on a envie de dire, bon, là, c'est bien ce qui est fait, mais il faut faire beaucoup plus. C'est notre rôle un peu de secouer le cocotier.
Côté exécutif, on défend. Avant de se demander si on est à 100% de ce qu'ont proposé les citoyens, on constate que ça a permis de faire bouger beaucoup de lignes, avance un conseiller.
Claudia Bertram, du service politique d'Europe 1.
Et on va reparler climat avec mon invité inattendu juste après le journal. C'est une première, le tribunal de Montpellier vient d'ordonner la démolition d'une centrale de 7 éoliennes à Lunas, près de l'Audève, dans l'Hérault.
Le promoteur doit également remettre la zone en état pour le juge. Ce parc éolien a été construit également. C'est une victoire pour les associations écologistes. Benjamin Péter.
Sincèrement, on en aurait pleuré, quoi. Tout ce gâchis, alors que depuis 15 ans, en fait, on avait raison.
La victoire est un peu amère pour Michel Solans et Jean Pougnier du collectif régional Toutes nos énergies. Depuis le début, ils dénoncent l'absurdité de ce projet sur les hauteurs de Lunas. Les éoliennes sont construites et exploitées depuis 10 ans, malgré 2 annulations de permis de construire par le Conseil d'État.
Le projet, il est à la fois sur des couloirs migratoires où il y a un certain nombre d'espèces protégées. Il est dans un parc naturel régional. Il est en zone absolument non constructible, ce qui fait quand même beaucoup.
Pour eux, ces parcs industriels sont le contraire de l'écologie. Ils préféreraient qu'on incite davantage les usagers à baisser leur consommation.
Les éoliennes, de toute façon, ça artificialise les sols. Mais en plus, on cumule le nucléaire, l'éolien, le photovoltaïque, demain l'hydrogène, etc., etc. Les premières préconisations qu'on devrait faire, c'est de donner plus de moyens pour isoler les maisons, etc., etc., petit à petit, de baisser sa consommation.
De son côté, côté, le promoteur Valeco s'étonne de cette décision et a l'intention de faire appel, un appel qui ne sera toutefois pas suspensif. La décision est exécutoire et prévoit la destruction des 7 éoliennes dans les 4 mois sous astreinte de 9000 euros par jour. Dans l'Hérault, Benjamin Péter, Europe 1.
Je suis innocent et je n'ai rien à craindre. Déclaration de Gérard Depardieu au journal italien La Repubblica. L'acteur français réagit à la révélation de sa mise en examen pour viol. Pour moi, l'enquête était close. Il affirme qu'il se présentera au tribunal le 10 mars pour réaffirmer son innocence.
Et nous serons en Italie tout à l'heure dans votre revue de presse internationale à 6h50.
Et puis Sébastien, écoutez bien cette somme astronomique. J'écoute. 210 millions d'euros. Et c'est le jackpot de l'Euromillion mis en jeu ce soir, ou plutôt remis en jeu, puisque personne n'a trouvé la combinaison gagnante mardi soir. Et 210 millions, c'est un montant inédit. Le précédent record s'établissait seulement à 200 millions. Et c'est un retraité du sud de la France qui avait touché le pactole en décembre dernier.
Bon, ça. Bah écoutez, on verra si on est là
bon
lundi.
Courage.
Bonne chance. 6h10, c'était le journal de Sophie Echen.